Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Mon invité ce matin, Francine Robert, qui est avec nous depuis bon nombre d'émissions. Bonjour Francine.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Tellement apprécié. Alors, en cette fin de semaine, ça sera donc un texte de Saint-Luc au chapitre 7, et disons-le tout de suite qu'il y a deux sections dans ce texte que nous allons entendre, la rencontre avec le pharisien Simon et la femme pécheresse, et finalement, si on a le temps, un petit sommaire.
C'est ça, oui, qui est le début du chapitre 8 de Luc, qui vient à la fin de la lecture d'aujourd'hui, et qui commence par cette phrase « Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu ». Je la proclame maintenant, cette phrase, parce qu'elle nous donne l'horizon sur lequel on devrait recevoir le récit de la pécheresse chez le pharisien. Cet horizon, c'est la bonne nouvelle du Dieu qui aime, du Dieu qui a compassion. On est dans Luc avec ce thème majeur de la compassion, et c'est une clé essentielle pour comprendre le récit d'aujourd'hui. On se rappelle aussi que Jésus meurt pour révéler jusqu'au bout ce Dieu-là, ce Dieu de compassion, ce que Paul nous rappelle dans l'épître qui est lu aussi aujourd'hui, qui vient de Galates, Paul qui dit « Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. Si c'était par la loi qu'on devient juste, alors Christ serait mort pour rien. » Donc, on voit bien le lien que Paul fait entre la mort du Christ et le fait que Dieu fait grâce. Donc, c'est le sujet du texte d'aujourd'hui. L'Alléluia aussi, rappelle ça, auprès du Seigneur est la grâce. Je sais qu'on va parler de pardon, mais c'est le vocabulaire de la grâce qui est, essentiel pour se donner comme une tonalité un peu plus juste à propos du pardon. Alors, dans ce récit, il y aura trois personnages que vous avez déjà nommés. Donc, Jésus, un pharisien, une femme pécheresse. On porte toujours attention à Jésus et à la femme. Je vous invite, quand nous entendrons la lecture, j'invite les auditeurs et les auditrices à porter attention à ce personnage du pharisien qui s'appelle Simon. D'abord parce qu'il est nommé, donc il devrait être important. Ensuite, parce que c'est à lui que Jésus parle presque tout le long du récit. C'est de lui que Jésus se préoccupe. Alors, on pourrait s'en préoccuper nous aussi.
Pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez les pharisiens et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et les larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Mais parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait rembourser, il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, c'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé? Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête? Elle, elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Puis il s'adressa à la femme. « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, Francine Robert, rappelons vite vite qu'à l'époque, on mangeait couché. C'est parce que ça peut paraître surprenant, là, de la façon que c'est présenté. Donc, Jésus est étendu et la femme, donc, elle est au pied de... Bon. Et on voit que tout au long, Jésus s'adresse à Simon. Hein? On dirait même que c'est lui qui a un problème.
C'est ça, hein? Comme on disait tout à l'heure, c'est Simon que Jésus est en train d'évangéliser.
Ça.
Alors, comme lecteur qui lisons l'Évangile pour nous-mêmes être évangélisés, ça peut être intéressant de chausser les bottines de Simon, peut-être. Je vous propose, Claude, de commencer par la petite parabole que Jésus raconte. Hein, la parabole étant une stratégie de dialogue, en fait, pour garder le dialogue ouvert entre lui et son interlocuteur, Jésus lui propose une parabole. Elle est très courte. Elle est une bonne porte d'entrée parce qu'elle inclut tous les personnages. Au fond, un créancier, deux débiteurs. On fait facilement le lien. Le créancier qui va annuler les dettes, ça peut figurer Jésus. Et les deux débiteurs peuvent figurer Simon le pharisien et la femme pécheresse. Alors, les deux sont endettés. Pour les deux, la dette est annulée. Pour une simple raison, ils sont insolvables. Le créancier annule leur dette parce qu'ils n'ont pas les moyens de la rembourser. C'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est pas par vertu de leur part ou leur qualité. Je rappelle qu'en monde juif, l'image des dettes, elle est classique pour parler du péché. Et donc, l'annulation des dettes est une image classique pour parler du pardon. On la retrouve d'ailleurs dans Notre Père de Matthieu. Hein, c'est pas « pardonne-nous nos offenses » dans Matthieu, c'est « remets-nous nos dettes » comme nous remettons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12, et c'est vraiment le même vocabulaire grec là, qu'on trouve à cet endroit-là dans Matthieu, comme ici dans le texte de Luc. Et Jésus attire l'attention sur les deux débiteurs, hein, en posant la question, lequel aimera le plus, il attire l'attention sur leur réponse à cette remise de dette. Je signale en passant que c'est pas remettre la dette, le mot qui est là, c'est faire grâce de la dette. Le vocabulaire de la grâce là, que je signalais au tout début de l'émission. Et donc, il leur fait grâce et Jésus tire la réflexion de Simon vers la réponse à ça, lequel des deux débiteurs va aimer davantage le créancier. Alors, ça aide Simon à réfléchir, puisqu'il reçoit une question. Vous me direz que la réponse était évidente, mais d'une certaine manière, il est comme obligé d'entrer dans le jeu de la réflexion provoquée par la parabole. Et ça lui permet peut-être d'entendre l'invitation de Jésus à regarder autrement cette situation qui le met, lui, en scène avec la femme et Jésus à travers l'image de la parabole. Est-ce que lui pourrait voir les choses autrement? Pour cela, Jésus l'invite à regarder la femme, sans jamais parler à la femme. Alors, on pourrait peut-être la regarder un peu nous aussi quand même. Je reviendrai sur Simon un petit peu plus loin. Bon, elle est entrée, on trouve ça surprenant, mais c'est vraisemblable. Si le repas a lieu dans la cour, il y a plusieurs personnes.
Ça prend du culot, quoi.
Ça prend du culot. Mm-hmm, mm-hmm. Surtout que c'est plein de bon monde, là. Puis elle a plutôt mauvaise réputation, d'après ce qu'on peut voir.
Oui, parce qu'elle est vraiment identifiée comme pécheresse dans le texte.
Ça semble être une sorte de fait public. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit d'elle que ça doit être une prostituée, mais le texte n'en dit rien. Ça pourrait être autre chose qui est aussi public. Alors, ça prend du culot aussi pour faire ce qu'elle fait. C'est parfaitement démesuré. D'abord, c'est un gaspillage de parfum. Sur les pieds, l'eau, ça suffirait. C'est un contact physique prolongé, donc c'est tout à fait inadéquat et presque irrespectueux. Et en plus, laver les pieds, c'est un acte si humiliant qu'un juif qui a des esclaves n'a pas le droit d'exiger de ses esclaves qu'ils lui lavent les pieds devant d'autres personnes en public. En fait, c'est le geste qu'une épouse pose envers son mari. Donc, c'est un geste intime, c'est un geste de servante aussi. On peut rappeler que c'est aussi le geste que Jésus posera.
Ben oui, c'est le geste que Jésus pose au chapitre 13 de Jean, oui, là, hein, là, lorsqu'il il va laver les pieds. On comprend la réaction de Pierre. Hein?
Oui, oui, tout à fait. Et on comprend ici aussi la réaction de Simon de voir Jésus se laisser faire ça. Alors, elle agit donc avec beaucoup de liberté, beaucoup, beaucoup d'audace, et elle sait très bien quel jugement les gens qui sont là portent sur elle. C'est ce que Simon se dit en lui-même, c'est une pécheresse, elle n'a pas d'affaire ici. Elle semble aussi savoir à quoi s'attendre de la part de Jésus. Hein? Elle n'est pas en train d'essayer de le conquérir. Bon, elle procéderait autrement, plus discrètement, plus finement. Et au fond, quand Jésus dit « tes péchés sont », en fait, c'est pas « tes péchés sont pardonnés », si on traduisait littéralement, c'est « tes péchés ont été pardonnés ». Quand Jésus lui dit cela, certainement, elle n'est pas surprise, elle le sait. Elle a entendu déjà sa prédication sur le pardon. Hein, ce qui est complété ici, c'est son propre trajet à elle pour accueillir ce pardon que Jésus proclame. Ensuite, avec la dernière phrase, il la tourne vers l'avenir. Hein, « Ta foi t'a sauvé, ta foi en ce que j'ai dit en public, en proclamant la bonne nouvelle du pardon ». Ailleurs, dans d'autres récits, cette fois-là, t'as sauvé, va en paix, tu repars avec l'avenir ouvert devant toi. Donc, elle vient accueillir pour elle-même un pardon qui est déjà donné. Il devient effectif parce qu'elle l'accueille, tout simplement. C'est pas une nouvelle pour elle. Elle a rien à apprendre. Elle vient confirmer et vivre cette expérience du pardon. C'est Simon qui a tout à apprendre, finalement. Un dernier mot sur la femme. Quand je parle ainsi, je dis qu'elle le savait déjà, ça veut dire que ses gestes d'amour expriment sa reconnaissance pour ce pardon qu'elle a reçu, qu'elle sait avoir reçu. Elle n'est pas en train d'acheter son pardon. Alors, la traduction ici de la liturgie est, pour moi, en tout cas, un petit peu problématique. Le texte se lit ainsi dans le grec. « C'est pourquoi je te le dis, Simon. » Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle manque beaucoup d'amour. Donc, c'est plus ambigu dans le grec que ça l'est dans la traduction de la liturgie. Je pense qu'il faut garder cette ambiguïté. Est-ce que Jésus dit à Simon que les péchés sont pardonnés parce qu'il voit à quel point elle montre de l'amour, donc il sait qu'elle a été pardonnée, ou est-ce que c'est parce qu'elle aime qu'elle est pardonnée? Voyons, on doit rester ouvert sur les deux sens du grec là-dessus. La suite est plus claire, heureusement, ça nous complique moins la vie. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. On voit bien ici. L'amour, c'est la réponse au pardon. J'ai pardonné beaucoup, elle manque beaucoup d'amour. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. L'amour, donc, je le redis, c'est la réponse au pardon. La parabole nous alignait déjà comme ça. Le créancier qui a annulé les dettes se retrouve avec deux débiteurs qui vont l'aimer en retour. L'annulation de la dette vient avant, et l'amour est la réponse à l'annulation de la dette ou au pardon. Cette libération intérieure de la prison que représentent les péchés, je dirais, ou surtout quand ils sont nombreux et qu'ils t'enferment dans une réputation de quelqu'un qui n'a pas accès au salut, cette libération intérieure que le pardon provoque rend capable de se tourner vers l'autre, capable d'aimer. C'est ce que la femme incarne dans le récit.
C'est à croire qu'il l'a. C'est comme un coup monté, quoi. C'est comme si Jésus avait dit à cette femme-là, viens donc pendant le repas. Alors, autrement dit, hein, il prend appui sur la femme pour passer tout un message à Simon.
C'est vraiment, oui, c'est une très bonne idée de le dire comme ça.
Parce que je me trompe pas, c'est non, vraiment à Simon là que Jésus utilise l'événement pour lui passer un message on ne peut plus clair.
Tout à fait. Ça allait bien au fond entre Jésus, Simon, les invités. Vraisemblablement, la conversation était intéressante. Simon a invité Jésus chez lui. Hein, je le rappelle, on passe trop vite là-dessus. C'est un acte public d'accueil et on n'accueille pas des gens avec qui on s'entend pas bien. On est en Orient, enfin, Proche-Orient. La table commune, c'est une table qui manifeste une communion de pensée
oui,
aussi.
Oui.
Et,
oh, oui,
Simon est ouvert. Oui. Et c'est bien Simon le pharisien. J'ai des étudiants, lorsque je dis que Simon est ouvert, qui pensent que je parle de Simon-Pierre. Tout à coup, ça n'est plus le pharisien.
Non. Et si vous me permettez, ça me rappelle ce que l'exégète Joseph Trinquet disait, qu'il y a eu pas mal de pharisiens qui ont passé au christianisme.
Certainement, oui.
Hein?
Ah oui, puis il y en est question dans le livre des Actes, entre autres, au chapitre 15.
Et que si le christianisme s'est si bien organisé rapidement, on le doit en grande partie à des pharisiens qui sont devenus chrétiens, tout en étant fidèles à leur judaïsme, sans doute, pendant au moins un certain temps.
Certainement, comme d'ailleurs les premiers disciples.
Alors, il devait être, Simon pouvait peut-être faire partie de la communauté chrétienne, enfin, on ne sait pas.
Enfin, on n'est pas avec des chrétiens, puisqu'on
non,
est en Pâques.
Non.
Mais on est avec des pharisiens intéressés à entendre. Ce sont des spirituels. Jésus parle de Dieu, parle de la Torah, parle de l'amour de Dieu, ça les intéresse, ici en tout cas ceux-là. Donc, si nous on doute systématiquement de lui et on l'étiquette, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, il est bouché, si on le classe déjà d'avance pour nous, on fait avec lui ce que lui-même va faire avec la femme, c'est une pécheresse, il n'y a rien à faire avec elle, son cas est réglé.
C'est ça.
Alors on doit faire attention à pas nous-mêmes être un pharisien
qui classe
le pharisien,
vous
voyez
ouais.
Alors donc, Jésus constate que Simon a un problème avec lui au moment où la femme est là et qu'elle fait tout ce qu'elle fait, et que Simon, tout à coup, ne comprend plus l'attitude de Jésus. Et donc, il propose, avec une parabole, à Simon, il lui propose de voir les choses autrement, de la regarder autrement. Il va lui dire, « Vois-tu cette femme ?» Mais implicitement, et de façon plus intéressante, il lui propose de se voir lui-même autrement. C'est quel autrement ? Ben, le point de vue de Simon, le pharisien, c'est « Elle et moi, on n'a rien en commun. » Le point de vue de la parabole, c'est « Elle et toi, vous êtes logés à la même enseigne. Vous êtes deux débiteurs, vous êtes deux pécheurs. De toute manière, personne ne respecte toute la loi. Donc, vous êtes deux pécheurs. La différence est rien qu'une question de degré. Elle est très beaucoup pécheresse, disons, lui, un peu. Ce qui est très probable, d'ailleurs. » Alors, Jésus, au fond, inverse le mécanisme de l'exclusion, ce qu'il fait constamment dans beaucoup d'autres récits et de beaucoup d'autres manières. Il inverse le mécanisme de l'exclusion. Au lieu de dire « on est tellement différents », il propose « on est un peu semblable ». Un peu comme le père proposait au fils aîné face au fils cadet. « Oui, mais c'est ton frère, hein, au fond, là. Vous êtes les deux frères. » Alors, Simon a montré peu d'amour. On retient ça contre lui. Je vous ferai remarquer que montrer peu d'amour, c'est bien différent que de montrer de l'hostilité.
Très juste.
Hein? Il a montré de l'amour.
Ouais. Ah oui, bon, il l'a reçu, comme vous disiez, il l'a reçu chez lui, etc.
Bon, il n'a pas tout fait comme si c'était son meilleur ami, mais c'est pas son meilleur ami, c'est un prédicateur itinérant, Jésus. Alors, il a montré de la sympathie, mais il a peu. Simon a peu à se faire pardonner, il a peu de dettes envers Dieu. Alors, Jésus lui rappelle finement que, oui, il y en a peu, mais il en a.
Mais il y en a.
Et que la proclamation de la bonne nouvelle du Dieu qui pardonne, c'est sa chance à lui aussi. Pour lui aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, au fond, parce que Simon est, ce qu'on pourrait, si je peux me permettre de dire, un gars correct, surtout comparé à elle, hein, ceux qui disent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, c'est exactement ce que Simon fait, et ce que Jésus lui reproche implicitement de faire. C'est comme si pour lui, la bonne nouvelle du pardon, c'est pas une grande bonne nouvelle, ça le laisse tiède, ça fait pas surgir la joie en lui. Alors que la femme, elle a été bouleversée par cette bonne nouvelle. Alors, Jésus tente de faire comprendre à Simon que pour lui aussi, c'est une bonne nouvelle, même si lui n'est pas pris à la gorge par ses dettes, il reste quand même insolvable et il a lui aussi besoin de ce Dieu qui l'accueille comme il est. Alors, on ne sait pas comment Simon va réagir, finalement. Le récit reste ouvert.
Comme,
là,
comme
encore,
beaucoup de récits de Luc, ça reste ouvert. Là,
oui, et donc, ça dessine pour nous la place du lecteur. C'est plus Simon. Simon est mort depuis longtemps. Mais moi, j'arrive là, à la fin du récit, et je suis dans les bottines de Simon, et je me dis, bon, mais qu'est-ce que je ferai? Tout comme la parabole des deux fils, donc du fils prodigue, on ne sait pas si l'aîné va rentrer dans la fête. C'est exactement la position de Simon. Au fond, est-ce que Simon va se réjouir? Ça pourrait être ça. Est-ce que Simon va se réjouir de dire, c'est vrai, au fond, cette femme-là, elle croyait que Dieu l'avait exclue, elle vient de comprendre que Dieu la sauve. Je devrais être content, je suis content pour elle. Je suis content pour moi de redécouvrir que c'est vrai, Dieu pardonne, même si je suis peut-être pas le plus grand pécheur de la terre, c'est une bonne nouvelle pour moi que Dieu m'accueille comme ça. Est-ce que Simon va se réjouir? Et à la limite, est-ce qu'il va se réjouir avec les anges dans le ciel? Je pense encore là au chapitre de la parabole du fils prodigue. Il y a plus de joie dans le ciel, c'est-à-dire c'est de la joie de Dieu. Est-ce que Simon pourrait partager la joie de Dieu pour cette femme-là qui vient d'être réconciliée avec Dieu, plutôt que de penser que ce serait mieux de continuer à l'exclure?
En somme, cette femme est un peu comme un miroir dans lequel il dit, hein, c'est un miroir qui lui présente, puis c'est toi ça.
Voilà, hein? Et c'est un miroir qu'il ne voulait surtout pas voir.
Mm-hmm. Hein? Est-ce qu'on a le temps de...
Il nous reste 3 minutes,
ouais.
4.
C'est peut-être trop cool aussi. On y va?
Oui.
Bon, ben alors la dernière partie, je la lis rapidement. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Cusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Finalement, beaucoup de femmes, mais je comprends pourquoi vous tenez quand même à en parler un peu.
Comment ça? Ce serait parce que je suis une femme?
Oui.
Mais je pense que c'est important de se représenter des femmes dans le groupe des disciples. Hein? C'est sûr que le grec, c'est comme le français. Il y a le masculin inclusif. Alors, on le sait en français, puis on lit un groupe d'hommes, ou les hommes, puis on met les femmes dedans. Mais en grec, on oublie. Alors, quand on reçoit le texte grec traduit en français, on oublie. Et trop d'agents pastoraux ne se représentent jamais les disciples comme un groupe qui inclut des hommes et des femmes. Alors, c'est important de se construire un visuel, une image, et c'est important de le dire, parce que les chrétiens et les chrétiennes qui sont devant nous doivent pouvoir s'identifier aussi au groupe de disciples. Ça me permet de rappeler que c'est une liberté absolument inouïe de la part de Jésus d'appeler des femmes comme disciples. Et valorisant Jésus, je veux aussi signaler et valoriser ces femmes. Ça prend une liberté inouïe pour ces femmes qui quittent tout pour le suivre. Et tout de suite, là, on aurait des réserves, hein, les femmes qui quittent leur mari pour suivre le groupe des disciples. En tout cas, c'est bien ce que Jeanne, de l'entourage d'Hérode, semble avoir fait. Un dernier mot, Marie de Magdala, elle est dite avoir été guérie de 7 esprits mauvais. Ça ne veut pas dire qu'elle était très pécheresse, ça veut dire qu'elle était très malade. Les possédés vont avec les malades dans les évangiles. Donc, Marie de Magdala n'est pas la pécheresse du récit que nous venons de lire avant.
Bien! Ah ben, c'est une finale intéressante que vous nous donnez là. Vous venez donc d'entendre Francine Robert. Je rappelle que Francine Robert est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. À la recherche musicale, Marina Khushinskaya. À la technique, Kim Tanguay. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.